D'abord, rappelons-nous, tout petit peu, c'est toujours bien de rappeler un peu qu'est-ce que c'est notre société pour ne pas oublier notre but. Société de Jésus couronnée d'épines, elle a été fondée à la fin du 19e siècle à Menil-Saint-Lô par le Père Emmanuel. Son but, c'est de promouvoir la parfaite modestie chrétienne parmi les dames et jeunes filles, ce qui équivaut à la fidélité aux grâces du baptême, de la confirmation et de la première communion, où l'on a promis de renoncer aux pompes du Satan et du monde. Quels sont les moyens? Il y en a deux. Union des âmes dans la charité et la pratique de la modestie dans les habits. Engagement est très simple, comme vous savez, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Une petite prière quotidienne, Notre-Dame de la Sainte-Espérance, Ave Maria, Notre-Dame de la Sainte-Espérance, etc. Ça va? Bien. Résumons assez rapidement ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, comme base, je vous ai déjà montré le livre de Don Maréchal, La modestie chrétienne. Si vous n'avez pas, si vous êtes intéressé d'approfondir davantage, derrière vous, il y a sur la table quelques exemplaires, aussi bien qu'une plaquette de l'abbé Rio, aussi sur la modestie chrétienne. Voilà. Alors, nous avons vu dans ce livre du Don Maréchal les chapitres 4 à 7 de la modestie chrétienne. Chapitre 4, les raisons pour lesquelles le bon Dieu est en colère contre les femmes vaines, parce qu'elles sont instruments de péché, ce qui demande une punition de celles-ci, tout simplement. Chapitre 5e, on a vu quelques pensées des pères de l'Église quant au voile et quant à la manière de se vêtir. Saint Augustin, au chapitre 6e, nous a donné sa pensée bien percutante. Plus on recherche les ornements du corps, moins on se soucie des ornements de l'âme. Moins on se met en peine des parures extérieures, plus l'âme se pare de bonnes œuvres et de vertus. C'est comme une balance. Et chapitre 7e, une petite histoire de la sévérité de Saint Bernard à l'égard de sa sœur Ambeline. À cause de l'habillement immodeste de celle-ci, la sévérité imprégnée du zèle du salut des âmes et de la gloire de Dieu. Sévérité qui a porté ses fruits. Bien. Nous continuons toujours le livre de Don Maréchal. Nous sommes arrivés au chapitre 8e. Où nous allons nous bien reposer. On ne bougera pas trop, car c'est un chapitre bien important. Nous allons voir quelle est la pensée de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin à propos de la modestie. Mais vous me direz, pourquoi Saint Thomas? Moi, je ne vous répondrai pas qu'on est dans le couvent dominicain et c'est pour ça. Voilà, c'est comme ça. Non, laissons la parole aux autres. Le pape Léon XIII, dans son bref instituant Saint Thomas d'Aquin, patron des écoles catholiques, nous dit deux choses par rapport à la doctrine de Saint Thomas d'Aquin. Sa doctrine est si vaste qu'elle contient, comme une mer, toute la sagesse de l'Antiquité. Alors Saint Thomas n'invente rien, ce qui est précieux. Toutes les vérités émises, toutes les questions sagement traitées par les philosophes païens, par les pères et les docteurs de l'Église, par les hommes supérieurs qui florissaient avant lui, avant Saint Thomas, non seulement il les a pleinement connues, mais il les a accrues, complétées, résolues avec une intelligence supérieure. Voilà. Et deuxième chose, la conclusion, sa doctrine, la doctrine de Saint Thomas, possède encore ce grand avantage que, munie de principes d'une grande largeur d'application, elle répond aux nécessités non pas d'une époque, mais de tous les temps, et qu'elle est très propre à vaincre les erreurs sans cesse renaissantes. Bien. On a vu l'importance un peu de la doctrine de saint Thomas. Et est-ce que vous avez une idée où ça peut se trouver chez saint Thomas? Son œuvre la plus connue, c'est la Scientologie. Alors, comme vous savez bien, il y a trois parties de la Scientologie. Tout simple. On va faire un résumé de la somme en une minute. Alors, c'est Dieu, ensuite c'est l'homme et notre Seigneur. Notre Seigneur. Voilà. L'homme, il va tendre vers son fin suprême, vers le bon Dieu. Il va se lever. Mais comment? Par la vertu. Et c'est notre Seigneur qui descend du ciel, qui ramène l'homme vers le bon Dieu. Voilà. C'est toute la somme. Alors, dans la deuxième partie, on le voit. Ça va? Pas trop résumé, non? Pas trop résumé. Peux prier, si vous voulez bien ajouter quelque chose, non? Ça va? Bien. Bien. Alors, nous sommes dans la deuxième partie. Alors, voilà. Alors, si vous voulez bien, je vous donnerai la référence, si vous voulez, un jour, voir si je ne vous raconte pas de petites histoires. Seconde à seconde. Question 169, qui contient deux articles. Article 1 et 2. Ça, c'est notre sujet de notre réunion d'aujourd'hui.
Pardon, mais c'est dans quelle partie? Enfin, c'est dans quelle partie de l'équipe?
Alors, cette deuxième partie, elle contient en fait deux choses.
En fait, moi, je lis la somme théologique d'après. Simplifié, on va dire, par l'abbé Le Breton, en cinq tomes.
D'accord, je oui.
Mais alors, il reprend les questions, mais c'est, comment dire, vertu par vertu.
Oui.
Et alors, donc là, c'est dans quelle
d'accord.
vertu ça parle, c'est pas...
Je veux dire, c'est en fait sur l'espérance, sur la tempérance.
Ah oui, c'est ça.
Tempérance, c'est à la fin, en fait. À la fin de la vie. Bien, on y va. Alors, on va analyser ces deux articles et on va ajouter quelques informations supplémentaires pour un peu mettre parfois à jour, donner des applications un peu plus d'aujourd'hui. Voilà. Saint Thomas, on a vu, consacre à la modestie un chapitre de sa somme. Voilà la référence. Alors, il se demande, premier article, il se pose la question. Peut-il avoir vertu et vice dans la tenue extérieure? Voilà. Alors, il répond d'abord en donnant la définition de la modestie. Alors, je peux dire tout doucement, je vais expliquer. Modestie, c'est une vertu, qui regarde la manière de s'habiller, tout simplement, qui dépend de la tempérance, on a vu, voilà, et qui est conjointe à l'humilité. On verra plus tard pourquoi à l'humilité. Une vertu, je fais un petit rappel, qu'est-ce qu'une vertu? C'est une puissance de l'âme, une force qui la dispose à agir. C'est une qualité qui est durable, qui ne dure pas une seconde, mais qui est durable, et qui incline la faculté à agir plus aisément. On peut résumer encore plus. Une prédisposition habituelle à faire le bien. Voilà. Il y en a deux grandes sortes. Ce sera très court, ne vous inquiétez pas. Les vertus acquises, c'est une disposition à agir de mieux en mieux par une succession des actes intelligents et libres. C'est comme des muscles. Peut-être pour les femmes, ce serait un peu moins parlant. Et pour l'art de jouer du piano. Voilà. Alors, c'est pas normalement inné, il faut du travail. Aussi de l'enfant que des parents pour la patience. Il y en a deux. Et la vertu infuse, qu'est-ce que c'est une vertu infuse? C'est une force divine, une impulsion d'en haut, voilà, une œuvre de la grâce. Voilà, on peut un peu comparer à, au talent, je ne sais pas, un bac et Mozart a une capacité musicale supérieure vis-à-vis de la moyenne de gens qui les entourent. Et une remarque qu'on verra plus tard, je voudrais la dire tout de suite, il faut normalement deux sortes de vertus, et acquises et infuses. Un Bach, un Mozart ne se contentaient pas de s'asseoir sur leur talent. Ils devraient aussi faire des gammes, etc. Il y avait toujours deux choses. Une chose qui était infuse, innée, un talent, et acquise, un travail de chaque jour. Ça va? Alors, la modestie impose à l'homme une règle, une mesure dans la manière de se vêtir. Donc, c'est une vertu, parce que il est propre à la vertu de mettre une règle rationnelle dans nos actes, de garder, soi-disant, un juste milieu. Par exemple, prenons l'exemple de la tempérance. Elle garde la juste mesure dans le manger et dans le boire, ni trop, ni trop peu. Voilà. Elle est entre l'excès et le défaut. Bien. De là, tirons une conséquence. Dans la manière de se vêtir, il faut une raison. C'est une règle qui est raisonnable. Mais comment se traduit cette raison? Comment le savoir? Par une coutume. Mais pas n'importe quelle coutume, parce que le monde aujourd'hui, comme vous savez bien, aussi c'est coutume. C'est de s'habiller sans modestie. Voilà. Cette coutume doit être louable. On va le développer plus tard. Mais comme vous voyez, nous sommes toujours au niveau purement naturel. C'est la nature dont on parle pour l'instant. C'est ce qu'on vient de dire, pourrait s'appliquer aussi bien aux catholiques qu'aux musulmans, aux bouddhistes ou aux incroyants soi-disant honnêtes. Mais vivre selon seulement la raison, est-ce que cela suffit à un chrétien, à une chrétienne, se demande de Maréchal. Oui, mais si on était ordonné seulement à une fin naturelle. Mais nous sommes ordonnés à une fin qui dépasse le naturel. Donc une vertu est comme un moyen pour atteindre le but. On a vu la deuxième partie, l'homme qui tend vers le bon Dieu par la vertu. Donnons l'exemple. Au niveau naturel, pour être en bonne santé, il faut bien régler la quantité et la qualité de ce qu'on mange. Voilà, c'est le domaine de la tempérance naturelle. Mais pour atteindre le but surnaturel, il faut un moyen surnaturel. Les moyens doivent correspondre à leur but. Par exemple, pour atterrir sur la Lune ou à la Lune, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, un vélo peut ne pas suffire. Voilà. Pas évident. Il nous faut donc, pour aller au ciel, quelque chose de plus puissant que les vertus acquises par nos propres forces. Il faut que le bon Dieu nous vienne en aide par l'infusion de vertus spéciales, vertus acquises. Il faut tous les deux, mais les vertus acquises ne suffisent pas pour aller au ciel. Est-ce que jusqu'à là ça va? Nous avons dit que chaque vertu suppose une règle. La règle pour les vertus acquises n'est pas la même que pour les vertus infuses. Donnons l'exemple. Pour la tempérance, qui règle l'usage des aliments, la règle humaine, qu'est-ce qu'elle nous dit?
De manger modestement.
Qu'est-ce que ça veut dire?
De manger selon la raison,
notre...
De manger à notre faim,
car il y a
toujours une petite faim à la fin.
D'accord.
Notre morphologie, notre activité.
Voilà, alors, dans Maréchal, nous dit deux choses. Que ces aliments n'annuisent pas la santé, voilà. Et le deuxième, qu'ils n'empêchent pas l'acte de la raison. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit la règle divine, qui vient de la foi? Qu'est-ce que pourrait nous dire?
Déjà ça, c'est le premier minimum.
Mais pourquoi le faire, tout simplement? Quelle est formelle? Pourquoi?
Ben, il voit faire son voir de temps. Oui. Parce que c'est Dieu qui nous a créés comme ça, et voilà. Il faut vivre pour manger.
Il faut manger pour vivre.
Donc vivre pour manger.
Alors, on monte plus haut. Sur son cordon, au niveau surnaturel maintenant. Surnaturel. Sur. Alors, bon, attachez vos ceintures, ne jetez pas vos parapluies. Châtier le corps, le réduire en servitude par l'abstinence de nourriture et de boissons. Bon, moi je donne un autre exemple, un peu plus facile. Il est où? Il est là. Il était là. Bon, je ne lis pas. Je lis pas. Ici. Alors, le fait de jeûner, le fait de l'abstinence, vendredi saint, au niveau naturel. Un médecin prescrit à son patient, client, bon, vous ne mangerez pas ce jour-là, vous allez vous préparer pour une opération chirurgicale importante. Bon, peut-être pas de viande, bon, vous prenez un bon repas si vous avez besoin, petite collation, etc. Mais pas plus, hein, pas plus. Bon. Un catholique, vendredi saint, fait ce qui prescrit l'Église, mais pour une fin tout à fait différente. C'est le deuil, c'est la mort de notre Seigneur. C'est imitation aussi de notre Seigneur. C'est aussi se priver de la nourriture pour expier ses péchés et les autres. Aussi avoir l'esprit moins appesanti pour pouvoir goûter plus facilement les choses d'en haut. Voilà. Vous voyez que c'est une certaine différence. Matériellement, on fait la même chose, mais pour des buts tout à fait différents. Continuons jusqu'au bout. La règle divine impose restriction de ce qui est permis par la raison. C'est important. Je répète, la règle divine impose restriction de ce qui est permis par la raison. La raison, par exemple, elle ne dit pas pourquoi il faut jeûner vendredi saint, sauf si on est patient d'un médecin qui nous prescrit quelque chose comme ça. La raison ne dit pas. Elle ne voit pas la différence entre vendredi saint et dimanche. Non, pas trop. Elle retranche, la règle divine, quelque chose de la raison. Et pourquoi d'après vous? Ce n'est pas inhumain. Est-ce que ce n'est pas déraisonnable de faire quelque chose comme ça? C'est contre la raison. Elle retranche quelque chose de la raison. Alors, vous êtes tout prêt, madame. Alors, on garde toujours notre nature. Mais notre nature reste toujours blessée. Qu'est-ce que ça veut dire blessée?
Fragile.
Oui, elle est inclinée au mal. Voilà. C'est alléchant le mal. Voilà. On le sent toujours. Très bien, il faut se confesser de temps en temps. Voilà. Tout simplement. Tous. Et celui qui veut user de tout le permis tombera infailliblement dans le défendu. Autrement dit, si on réfléchit selon l'adage, l'autorodage, je dirais, jusqu'à où puis-je aller pour ne pas encore pécher, mais pour pouvoir profiter de la vie librement. Voilà. On va sûrement, si on réfléchit comme ça, on va sûrement tomber un jour gravement, et pas seulement dans le péché véniel. Il faut donc freiner, pas tuer, il faut freiner notre nature. Donc attention aux soi-disant des délectations permises. Permises au sens où puis-je aller pour ne pas encore pécher. Nous pouvons nous permettre de s'en délecter à condition d'y ajouter du sel de mortification. Appliquons maintenant la règle humaine et divine à la modestie. Selon la raison, je m'habille comme il résulte d'une sage coutume. C'est une modestie humaine raisonnable. Et la règle divine, je m'habille pour faire paraître en moi la mortification de Jésus-Christ. Je suis chrétien, je suis chrétienne, pas comme les autres, je porte en moi notre Seigneur. Avant, c'était beaucoup plus simple. Moi, je ne connais pas ce temps, mais je pense que oui. Quand la chrétienté imprégnait et l'âme et le corps des pays, ces deux règles se rencontraient et se fondaient en une seule. Et donc Maréchal insiste. La manière de se vêtir d'un chrétien, s'il vous plaît, il commence par un chrétien, on n'est pas misogyne, et d'une chrétienne, doit différer en soi de celle qu'adopte des mondains. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça va jusque-là ?
Oui.
Alors, on va maintenant avancer. On va entrer un peu dans le vif, dans le corps de la question de saint Thomas. Saint Thomas répond à la question de l'article. Je rappelle, peut-il y avoir vertu et vice dans la tenue extérieure ? Et tout d'abord, il donne un principe qui est important. En soi, ne mérite ni louange ni blâme. Voilà, les choses extérieures, c'est indifférent. En soi. Ah bon ? Mais cela n'est plus indifférent dès qu'on le prend à son usage, dès qu'on s'en sert. Bien, c'est la même chose qu'il dit ici. Alors, si on le fait, si on use des choses, avec modération, c'est une vertu. Et si on le fait avec excès, c'est
un
vice. D'accord. Excès. Alors, l'excès peut provenir de deux choses. D'abord, on ne tient pas compte dans l'usage d'une coutume louable. On souligne toujours coutume louable. On a vu pourquoi. C'est-à-dire honnête, décent. Et deuxièmement, on apporte à leur usage une affection désordonnée. La modération peut être absente, je dis d'une autre manière, de deux façons. Premièrement, par comparaison avec le milieu et avec les mœurs ou habitudes qui y règnent, avec l'entourage. Deuxièmement, en raison de l'esprit qu'on y apporte et de ce qu'on se propose en usant de tel objet de luxe ou d'ornement. C'est vis-à-vis de soi-même, plus ou moins. D'accord ? Et saint Augustin dit, ces deux façons de dévier se réunissent fort souvent. Il arrive que la licence non seulement abuse coupablement des coutumes, mais déborde sur elle et fait éclater en criminelles éruptions une honte que cachait la barrière de bonnes mœurs. Or, le désordre peut prendre ici une double direction. L'excès et le défaut. On a vu, la vertu est toujours un juste milieu. Ce n'est pas une médiocrité, un juste milieu entre le défaut et l'excès. Alors, d'abord, les excès, si vous le bien. Les excès, il y en a trois. Trois déviations se présentent. Les uns, premier, cherche là une sotte gloire, une sotte gloire, se revêtant d'habits somptueux et de subtils ornements propres à les exalter, pense-t-il, aux yeux des autres. C'est le mauvais riche vêtu de pourpre et de fin lin, et leur modèle tout simplement. D'autres, deuxième excès, recherchent les habits délicats par amour de la volupté, que de telles recherches fomentent. Et troisième, d'autres enfin exagèrent sans mauvaise intention, mais de façon à déborder par rapport à leur situation et aux convenances sociales. Tout simplement, ils dépensent trop d'argent vis-à-vis de leur de leur niveau social. Oui. À ces trois désordres, est-ce que ça va pour ces deux ordres? Est-ce qu'ils sont assez clairs? Bien. À ces trois désordres, bon, il y a toujours des remèdes. Il y a un Andronicus. Je ne sais pas qui est Andronicus. La prière, est-ce que vous savez de qui parle saint Thomas? Andronicus.
C'est un commentateur d'Aristote.
D'accord. Il oppose l'humilité, on retrouve notre humilité, qui exclut l'envie de briller en moyen du luxe et encore du remède. La suffisance, qui qui combat les recherches efféminées, excusez-moi, je cite efféminées, et troisième remède, la simplicité, qui invite à ne pas attacher à de telles choses une importance déraisonnable. Voilà. D'abord, on donne les règles, ensuite, on verra bien qu'il y a des exceptions. Ne vous inquiétez pas. Et deux défauts. La négligence, c'est important, parce qu'on pourrait dire, si c'est comme ça, il faut être négligent dans ce cas-là. Il faut s'habiller en sac de pommes de terre, voilà. Non. La négligence. Dans ce rang de coupables, ceux qui refusent le soin et l'effort nécessaire pour satisfaire aux convenances. Voilà. Et une sorte de gloriole à rebours. Certains, cherchant à se distinguer par le mépris de tout apparat, comme d'autres se distinguent par leur luxe. Il y a l'orgueil là-dedans.
C'est la mode actuelle, peut-être plus actuelle, mais il y a une dizaine d'années, qui s'appelait la mode grunge. Il fallait être le plus sale possible.
C'est du montant, d'accord.
Ah, le plus sale possible.
C'est pareil, j'ai pas les tenues.
Mais les jeans déchirés, c'est ressorti, hein, ça commence.
C'est ressorti le jean déchiré, alors délavé devant, enfin bon, déchiré, craqué.
Et ça coûte très cher.
Et ça coûte plus cher que
Paris. Oui, un œuf bien en état coûte moins cher que ça.
D'accord, bon. Alors, Saint-Augustin ne vivait pas encore dans ce temps-là, mais il a dit... Il y a des manteaux troués à travers lesquels on voit l'orgueil. Et la jactance se loge jusque dans le deuil des habits. Voilà. Bien. Et alors, vous me direz, et les prêtres à la messe, par exemple. Aïe. Il faut du reste faire la part des situations et des vocations particulières. L'homme constitué en dignité, le prêtre dans l'exercice des fonctions sacrées, se revêt d'habits somptueux. Non par jactance ou par légèreté, mais pour signifier les grandes choses qu'il traite. C'est pas... Il faut comme ça. C'est pas pour eux. Voilà.
Les prêtres modernes
qui sont habillés comme
des
animateurs
de foi,
c'est ridicule.
Ça donne pas envie de
se regarder. Alors, j'ajoute un petit peu. Alors, il n'est pas question de s'habiller à l'encontre des goûts et d'usages communs. Je vais parler tout petit peu de cette coutume, usage louable. Il n'est pas question de s'habiller à l'encontre des goûts et des usages communs. Par exemple, on va s'habiller comme au Moyen-Âge, par exemple. Non. Il faut éviter l'indécence et l'excès d'ornementation. Pardon. Maintenant, c'est Monseigneur Magnier, ce qu'il dit. La vraie beauté, ne l'oubliez pas, est celle qui charme le cœur, sans craindre de le séduire. Elle vient de la vertu dont le rayonnement embellit à tout âge la physionomie. Et maintenant, important. Sans exclure le bon goût et l'élégance, conservez la modestie qui caractérise la chrétienne, la bienséance et la grâce qui distinguent la française. Voilà. Voilà. J'ai trouvé. C'est bien. Dans le port du vêtement, l'ordre à suivre est celui de la charité. Charité. Le bien de l'âme l'emportant sur celui du corps, la femme doit préférer à l'avantage de son propre corps l'intérêt de son âme et de l'âme du prochain. C'est pourquoi elle ne doit jamais mettre un vêtement qui soit une source de péril grave et prochain pour le salut de l'âme, même si c'est plus commode ou plus hygiénique pour le corps. Ça va jusque-là? On continue? Est-ce que ça veut dire que vous êtes tout d'accord avec saint Thomas? D'accord? C'est bien, on avance. On verra tout à l'heure. Gardez les questions pour plus tard. J'ai trop de feuilles, il faut que je m'en gagne. que l'on sent. Ah oui, d'accord. Si, si. Désolé. Bien. Alors, on a fini l'article premier. On a vu qu'il peut s'y cacher soit le vice, soit la vertu dans la manière de se vêtir, dans la tenue extérieure. Il est vrai que la question de la modestie intéresse davantage les femmes que les hommes. C'est comme ça. Bon, je continue. Bon. Alors, c'est le commentaire sur le Père Pègle qui commente saint Thomas. Mais si cela est vrai de tout être humain en général, une question spéciale se pose au sujet de la femme. La parure extérieure occupe chez elle ou dans sa vie une place tout à fait à part. C'est comme ça. C'est votre nature. Voilà. Que l'excès puisse s'y rencontrer, il n'y a même pas à le mettre en question. Voilà. Et tout de suite, saint Thomas se demande, c'est justement un passage vers la question suivante, saint Thomas se demande si cet excès de la parure ou cette tyrannie de la mode, c'est comme ça parfois, qui absorbe les préoccupations de la femme, peut aller sans qu'il y ait faute grave ou péché mortel. Ça sera tout petit peu une suite de citations. Ça vient de Chardonnay, du Chardonnay, 2005, sous l'abbé Beauvais. Bon. Une femme qui chercherait à attirer les regards sur elle de manière séductrice, elle le fait pour ça, montre, si elle est mariée, qu'elle se soucie peu de plaire à son mari. Et en général, mariée ou pas, de plaire à Jésus-Christ, de manière générale. Il ne s'agit pas de se couvrir de sacs à patates, hein, ou de sans les lire, ou encore de s'habiller comme une religieuse en civil. Entendons-nous bien.
L'équilibre est aussi compliqué. Parce que, de fait, c'est quand même dans notre nature.
Oui.
De plaire, c'est dans notre nature. On n'a pas à le rechercher, mais c'est la mesure est quand même délicate. La mesure est délicate parce que, de fait, c'est quand même dans notre nature. Donc, on a quand même porté à cela.
Oui.
Mais il ne faut pas d'excès.
D'accord, on verra tout à l'heure. Bon, je vous ai dit qu'il y aura des questions. Alors, on continue. Un vêtement... Bon, attendez, pour que je ne dise pas de bêtises. Bon, disons comme ça. Un vêtement indécent est donc scandaleux. C'est-à-dire occasion de scandale pour les femmes, faibles ou non. Car en ce qui concerne la vertu de pureté, tous peuvent-ils affirmer être forts ? Bien. Épidose. Il y aura une longue citation, si vous voulez bien. Je ne raccourcis pas, c'est très, très intéressant. Pidouze, s'adressant à la jeunesse féminine de l'Action catholique, s'exprimait ainsi. On est toujours au début de la deuxième question, que tout simplement pour dire qu'il faut... Parfois, il faut souvent prendre en compte que notre manière de s'habiller influe sur l'extérieur. Si certaines chrétiennes soupçonnaient les tentations et les chutes qu'elles causent chez les autres par leur toilette et les familiarités auxquelles, dans leur légèreté, elles accordent si peu d'importance, elles s'épouvanteraient de leur responsabilité. Attention. Bien. D'accord, avance un peu, tu peux, si vous voulez bien. Saint Thomas résume tout petit peu. La parure des femmes peut provoquer les hommes au péché contre le 6e, 9e commandement. C'est comme ça. Ça peut provoquer. Est-ce que cela signifie que les femmes mariées doivent abandonner entièrement leur parure? Simplement s'habiller en sac de farine ou de patate. Saint Thomas répond, il ne donne pas d'exemple de patate, non. La femme mariée peut prendre les moyens de plaire à son mari. Et pourquoi? Et pourquoi? Écoutez, c'est important. De crainte que, venant à, à la mépriser, il ne lui devienne infidèle. Donc, si la femme mariée se pare uniquement dans la vue de plaire à son mari, elle ne peut le faire. Elle peut le faire sans péché. Elle peut. Elle peut le faire. Hein, tout simplement.
Oui, mais si le mari veut une tenue pas correcte, il y en a des messieurs. D'accord. Ça peut arriver.
Alors, il faut refuser. Ah, ça, il faut refuser. Non.
Oh. Non. Ça dépend si c'est pour la maison, pour l'extérieur aussi, peut-être. Si c'est chez soi ou si c'est dans la rue.
On verra plus tard. Il ne faut pas faire la schizophrénie quand même. Non.
J'ai lu l'histoire de... Enfin, ce n'était pas un chrétien. Il exigeait que sa femme se promène toujours avec le dos nu parce qu'il trouvait que c'était beau. Elle a fini par en mourir, cette pauvre femme. Elle a obéi à son mari. Oui. Et elle est morte pour quelle maladie elle a attrapé.
Elle a pris froid peut-être. Elle a pris froid.
Oui. C'est le soleil qui l'a brûlé.
La pneumonie. Voilà.
Non, ça, je crois que c'est la voilà. Pris froid en fait. Mais parce qu'il voulait qu'elle montre ça aux autres. Bon. Il n'était pas chrétien, hein, mais c'est pour. Enfin, il faut que le mari soit chrétien. Que...
Vous voyez, c'est tout un ensemble. Hein, tout un ensemble. On a, voyez, notre réunion devrait s'adresser à tous.
Hein.
Bon, ça va. On est d'accord. Hein, on est d'accord qu'il faut faire attention. Hein, qu'il y ait une distinction. Peut-être Saint Thomas n'imagine pas de ces cas-là. Voilà. Bon, maintenant, et pour les femmes qui ne sont pas mariées. Si elles ne veulent, elles ne peuvent pas se marier. Cela dépend pourquoi elles se parent. C'est toujours pourquoi elles le font. Si pour plaire au regard des hommes, mais dans un but de provoquer la concupiscence, c'est le péché mortel. Et pourquoi? Bon, vous comprenez, c'est de simuler ces hommes au péché. On devient le coopérateur du péché d'autrui. On en est responsable. Si on le fait consciemment, ça va, consciemment, avec cette intention. Mais si on le fait par légèreté et vanité, dans un but de vaine gloire, saint Thomas est indulgent. C'est au moins le péché véniel.
Bon. Là, c'est une différence d'intention.
Et la matière n'est pas la même. Vous voyez, si par légèreté, bon.
La tenue est la même, mais l'intention est différente.
C'est ça. On le fait pour soi-même en fait. Si c'est par vaine gloire, c'est pour soi. Vous voyez. Et dans le premier cas, c'est-à-dire au moins on suppose que quelqu'un peut pécher tout simplement. À cette occasion.
Si l'intention est faite réellement pour plaire aux hommes, en fait, c'est ça.
Bien. Donc si elle a juste à étudier ça, comment on peut savoir les différences d'intention là.
Mais attention, c'est-à-dire que au confessionnal, c'est pas, vous ne jugez pas par les autres, c'est quelqu'un qui vient au confessionnal, qui sait bien pourquoi il s'habille comme ça. C'est ce cas-là, vous voyez.
Parce que
c'est difficile de juger les intentions, mais la personne qui le fait, elle le fait pourquoi, hein? Elle sait bien pourquoi elle le fait.
Hein? Oui, mais c'est là où je trouve que c'est quand même assez délicat.
Oui.
Parce que on dit péché grave et péché même mortel, l'intention. Mmh. Mais à la fois, notre nature vous pousse à plaire, mais elle ne pousse pas à plaire à la gent féminine.
Bah, oui. Oui.
Elle nous pousse à plaire à la gent masculine, c'est normal.
Oui.
On le voit dans un bébé, un nourrisson, etc. Et la petite fille, elle réagit complètement différemment par rapport à son papa qu'à sa maman. Mmh. C'est dans la nature.
D'accord.
Donc.
Vous voyez, cette intention est bonne, ça dit qu'il n'y a rien de coupable là-dedans.
Oui, mais il pourrait y avoir du coup des esprits même scrupuleux en disant ben, si je fais ça, est-ce que vraiment mon intention, c'est pour me plaire moi-même? Mais dans la nature, elle est quand même poussée à plaire à l'agent masculine.
D'accord, mais je pense qu'on voit bien la différence. Hein. La différence, pourquoi on le fait? Bon, si vous avez bien distingué les deux cas, c'est pas pareil.
Oui, mais est-ce que si quelqu'un le fait pour plaire autour d'elle, elle veut attirer l'attention pour plaire,
c'est pas être quelqu'un d'agréable.
Oui.
Mais qu'elle n'a pas la notion du péché.
C'est-à-dire, bon, le Saint-Thomas indique que parfois c'est le moment, c'est un péché venir. Bon, c'est une vaine gloire, tout simplement.
Oui. Vous voyez. Même si elle cherche à plaire aux messieurs
pour la tenue. Même la jeune fille qui,
on cherche à se marier.
On va en parler. Je voudrais justement, j'attendu le silence.
je veux fermer juste la différence, en fait, c'est celle qui est réellement sensuelle et celle qui est, naturellement normal, porté à plaire naturellement, on va dire. Et là, c'est la sensualité qui
est la différence de la fin. La différence de la fin.
Non, l'intention de celle.
Voilà.
Oui, mais le père a l'air de dire qu'il faut avoir l'intention de faire le mal, en fait, de troubler les gens.
Au moins, on permet que ça soit l'occasion du péché, vous voyez.
Et on le sait. La personne le sait.
Amen.
Si elle le fait sans savoir,
c'est pas un péché si on le fait sans savoir.
Bien. Est-ce qu'on pourrait passer au nom de Marie qui veulent se marier? D'accord. Les femmes, alors. Ce serait qui? Ah, je ne sais pas. Les femmes qui n'étant pas mariées pensent sérieusement au mariage, peuvent certainement chercher à plaire par leur parure, pourvu toutefois qu'elles ne se permettent rien qui soit contraire à la décence, à la modestie chrétienne. Et maintenant, Saint François de Sales, on ne permet plus... Alors, je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire, je ne comprends pas ces mots.
Trafiquer.
Ça, c'est une erreur du pays, hein, c'est un vocabulaire d'époque.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Affiquer, heurter. Désaffiquer. Affiquer, c'est peut-être un objet.
Je n'ai pas trouvé, c'est pas une erreur. Hein.
Ça doit être du vieux français.
Je pense que c'est l'ornement, tout simplement. Hein. L'ornement supplémentaire.
Hein. Oui, des artifices, peut-être des décorations, voilà. Des machins.
Parce que vous savez mieux. Vous savez mieux. Voilà, le machin.
Faire un lien disait qu'il permettait aux jeunes filles qui voulaient se marier de mettre l'enseigne. Il appelait ça l'enseigne.
Alors, on permet plus de cette chose aux filles, dit Saint François de Sales, parce qu'elles peuvent loisiblement désirer d'agréer à plusieurs, voilà, quoique ce ne soit afin d'en gagner un par un légitime mariage. Voilà. Parce qu'elle ne sait pas qui sera, comment dire, qui sera.
Oui, ben, elle est révélée comme elle est chrétienne par les règles de la modestie.
Oui.
Alors que celle qui est légère et qui ne sait pas, parce qu'elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas réglée par les règles de la modestie.
Voilà.
Ce qui fait que la jeune fille chrétienne, elle est en concurrence avec les autres.
Oh, oui.
Alors, on a vu. Alors, si vous voulez bien, bon, ça pourrait nous concerner un peu tôt, si vous voulez bien. Alors, on a vu là. Alors, on a vu quelques cas. C'était en fait là. On n'a pas vu la non mariée qui le fait. Voilà, sans vanité. Sans vanité. La non mariée qui le fait sans vanité. En suivant une coutume non louable, elle peut être excusée de péché, dit Saint Thomas. Alors, est-ce que vous voyez un exemple?
Oui,
Bon, moi je vous donne.
Vous pouvez rajouter la non mariée qui.
Je vous donne l'exemple et vous verrez bien de quoi s'agit-il. Bon. Alors c'était à Saint-Nicolas, je pense, qui m'a raconté, peu importe. Alors c'est une jeune fille qui était rasée, qui est rasée presque à zéro, plein de, qu'est-ce qu'on dit, persil, quelque chose, voilà, on avait partout, en pantalon, etc.
Tatouage peut-être aussi, non?
Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Alors, on l'avait, elle l'a confessé ensuite, pourquoi vous êtes habillée comme ça, mais tout gentiment, vous voyez, tout gentiment. Bon, moi, je pensais que, elle a répondu, moi, je pensais que c'était bien, que c'était chic, etc. Voilà. Tout le monde s'habillait comme ça, elle croyait en toute bonté qu'il faut s'habiller comme ça. Sans méchanceté, sans méchanceté. Bon, et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser dans l'ignorance cette personne-là?
Maintenant, il faut quand même. De toute façon, elle doit bien se sentir un peu drôle avec les autres.
À Saint-Nicolas, vous avez un poteau.
Si c'est à Saint-Nicolas, vous avez un poteau. Tout le monde a des pareils. Si c'est à Saint-Nicolas, c'est pas.
Même à Saint-Nicolas, je pense.
Mais dites pas à Saint-Nicolas.
Comment?
Alors, bon.
Ah oui.
Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Il faut aider les prêtres, hein, un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Qu'est-ce que vous aurez fait?
Bah, si on est clair, c'est évident qu'après, son intention, elle sera différente après. Vous
l'expliquez. Vous l'expliquez, hein?
Tout gentiment. Tout gentiment. Tout gentiment. Bon. Pas comme ça. Enfin, si vous voulez bien, Saint Thomas, vous voyez Saint Thomas, comment dire, il regarde de tous côtés, de tous côtés, c'est un bon psychologue aussi, un bon psychologue. Il n'est pas, il est, comment est-ce qu'on dit, il est bien incarné, il est bien incarné. Enfin, Saint Thomas creuse encore la question et passe. Et passe de celle qui porte les vêtements à celle ou ceux qui les confectionnent, les tailleurs, couturiers pour les dames. Est-ce qu'il peut y avoir un péché? Alors vous réfléchissez et je vous dis tout à l'heure. Je cherche le feuille.
Ça dépend si
une expression qu'il faut utiliser, ça dépend, très bien. Alors de quoi ça dépend?
C'est très riche, hein.
Ça va? Bien, alors disons. Quant à ceux, bon, c'est un commentaire, c'est pas Saint Thomas un peu, comment dire, un peu plus formel. Quant à ceux qui fabriquent ou préparent les ornements, habits ou produits dont il est question, leur cas moral dépend de ceux qui précèdent. Il faut savoir pourquoi on le fait. Un artisan qui coopère à ceux qui, le soir, est toujours et pervers, participe au crime. C'est comme quelqu'un qui produit, je ne sais pas, excuse-moi pour des expressions, mais il faut utiliser des expressions d'aujourd'hui, bon, des journaux qui sont obscènes, par exemple, qui sont journaux de livres hérétiques, bon, ils sont mauvais en soi. Voilà. Merci. Charlie Hebdo. Voilà. Alors, on sait bien ce qu'il faut y penser. Si au contraire, il fabrique des objets dont on peut user bien ou mal, il n'est pas responsable de l'usage qu'on en fait. Pas plus que l'armurier n'est homicide. D'autres exemples, quelqu'un qui produit des couteaux, bon, si on fait avec ce couteau ensuite, hein, si on commet un meurtre, un viticulteur, bon, mais ensuite quelqu'un s'enivre. Quelqu'un qui produit des briquets, mais bon, quelqu'un utilise pour faire un incendie. Il n'est pas vraiment. Ça peut être utilisé en bien ou en mal. Bien. Ça dépend. Parce qu'il y a des vêtements qui sont bons. On ne peut pas faire l'usage honnête de tout vêtement. Il y a des vêtements qui sont faits justement pour. C'est-à-dire. À la base, elles sont pas honnêtes, elles sont immodestes. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'il faut pas les mettre. Or, les vêtements et ornements féminins peuvent être employés bien ou mal. Cela donc ne pêche pas qu'ils s'y emploient, à moins qu'ils ne se fassent inventeurs de nouvelles vanités et curiosités plus ou moins lascives. Bon. Est-ce que ça va?
Oui.
Est-ce que ça va pour Saint Thomas? Alors, si vous voulez bien, on a donné quelques principes, il faut les appliquer. Alors, un jour, je pense à la dernière ou l'avant-dernière réunion, on m'a demandé quelque chose de précis. Alors, si vous voulez bien, on a parlé de vertu. La vertu, c'est une mesure à garder. On va parler des mesures. Ça va? Des mesures. Alors, mon plan. Bonjour, je trouve. Le premier qui parle au sujet des mesures, c'est Saint Curé d'Ars. Saint Curé d'Ars. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit une chose très simple. Parlons de la mesure descente des jupes d'Élysée. Une bonne mesure en dessous des genoux. En dessous des genoux. Et pourquoi il disait? Pourquoi est-ce qu'il disait comme ça? Le Saint Curé d'Ars qui le disait, il confessait tant d'hommes, il savait très bien et mieux le pourquoi de cette mesure. Il savait combien de péchés se commettent par la vue. Tout simplement. Par l'expérience. Les autres, des autres. Ensuite, Pie XI, il donne un code catholique pour l'habillement, voilà, en 1930. Il donne en fait quatre règles. Quatre règles, d'accord? La robe ne peut être appelée descente qui descend plus bas que la largeur de deux doigts sous la base de la gorge. La base de la gorge, est-ce que c'est le haut de sternum, c'est ça? Non. Première chose. Qui ne couvre les bras au moins jusqu'au coude. Ça va? Au moins jusqu'au coude? Ça va? Ça dépend des doigts, mais bon. Vous comptez déjà? Oui, d'accord. Qui n'atteint pas au moins les genoux. Qui est faite à partir d'un tissu transparent. Quatre choses qui sont bien simples. Et pour les hommes aussi. Bon, on n'est pas misogyne. Que les hommes donnent le temps en évitant le torse nu et le short.
Et le
short. Short, pardon. Excusez-moi pour la prononciation.
Pour les genoux, là, c'est...
Comment?
Pour les genoux, ben, ça dépend. Et je vois, par exemple, quand on dit juste... qu'on ne voit pas les genoux, si c'est trop juste en dessous des genoux et que la robe, la jupe est large, avec le vent, je l'ai constaté au cours d'un mariage à la pension, au cours d'une visite, et bien avec le vent, ça se soulève tellement que bah, c'est comme s'il n'y avait plus de jupe.
D'accord.
Donc, il vaut mieux si elle est large,
c'est
qu'elle soit beaucoup plus longue.
Ça, c'est sûr.
Parce que si elle est étroite, à ce moment-là, il ne faut pas trop se lever.
La réflexion d'un jeune homme, juste après la possession des mains. Et après, je comprends pourquoi les gars demandent les jeunes qui sont bien en dessous des loups. Parce qu'il y a eu du vent dans la poche.
Est-ce qu'on pourrait un tout petit peu encore continuer la mesure? Peut-être que ça va éclairer davantage, je pense. Peut-être que ça sera tourné d'une autre manière. Alors, c'était toujours l'abbé Bouvet qui continue. C'était en Argentine en 1968, alors qu'en France, qu'est-ce qui s'est passé en 68?
Hein?
Voilà. Alors, Monseigneur Francisco Vicentin, archevêque de Corrientes, bon, c'est le nord de l'Argentine. Passons tout de suite aux mesures. Que les femmes, dès leur plus jeune âge, se couvrent la tête. Bon, il n'oublie pas de la tête, on a parlé d'autre chose. On a déjà vu le voile. Qu'elles se couvrent la tête, c'est par rapport à l'Église, qu'elles n'utilisent pas de vêtements moulants, de décolleté, mais des vêtements amples, jusqu'en dessous des genoux, et avec des manches qui couvrent l'avant-bras. Ça va? Qui couvre l'avant-bras. Attention. Ah oui. Ah oui, c'est un peu plus simple.
Non, c'est ça,
ah oui, c'est ça.
C'est
la
main, c'est le bras.
Oui,
mais
là, franchement.
Donc, il parle de quoi? À la messe ou tout le temps?
Il parle de la messe, c'est ça?
Ah oui, à la messe, il est à la messe.
Oui, non, non, mais
ça va? Bon. Pour les hommes, bon, je pense que ça aussi est important parce que, bon, vous avez la Marie aussi. Bon. Que les hommes aussi, dès leur plus jeune âge, assistent à la messe bien vêtue, en dimanche, entre parenthèses. Lors d'événements ou de célébrations de bonne société, personne ne se présente en manche de chemise, chemise ouverte, etc. Encore moins, cela doit-il être permis dans la maison de Dieu.
Et, il y a quelque chose que vous pourriez rajouter. Oui. Là, c'est l'expérience avec la profession de mon mari. Des fois, on est obligé d'aller au casino de Deauville. C'était là. Et il y avait un garde en vigile qui veillait à la tenue des gens. Il avait marqué tenue correcte exigée. Alors, c'était pas modestie, hein, parce qu'il y avait des enfants. Mais j'étais effarée. Je dis, non, vous êtes en jean, vous sortez. Vous êtes en basket, vous sortez.
C'est là-bas qu'on pourrait apprendre les coutumes louables. Les coutumes louables. Aller au casino, demander à ce monsieur comment seraient les coutumes louables.
Alors je vous dis par contre, les tenues étaient. Alors c'était des robes longues, mais bon, après les décolletés, mais par contre, c'est ça, les gens, que leur bougie, ils étaient. Non, vous sortez. Donc voilà, c'est vrai que.
Est-ce que vous connaissez ce qu'on disait le Padre Pio par rapport aux mesures, hein? Vous voulez que je rappelle, hein? Comment? Alors, alors je lis. Par souhait explicite du Padre Pio, les femmes entrant en confessionnal, c'est pour le confessionnal. Hein? Doivent porter des jupes descendant d'au moins 20 cm au-dessous des genoux. Il est de plus interdit d'emprunter des robes à l'église pour les porter uniquement en confessionnal. Vous avez compris pourquoi.
Il n'y a pas des chaussettes aussi?
Chaussettes?
Non, si, parce que mais les femmes, les soeurs de ma mère, quand elles étaient petites, quand elles étaient jeunes, et si elles voulaient aller à l'église se confesser, elles faisaient qu'elles mettaient des chaussettes. Et que les renvoyaient chez elles si elles
n'avaient
pas de chaussettes dans les pieds.
Si elles étaient pieds nus dans leurs sandales,
voilà.
D'accord.
Alors, seulement les chaussettes.
Si vous voulez bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer aux objections. Et vous me direz si vous retrouveriez dans ces objections, ouais. Ou peut-être quelqu'un vous a posé ces objections.
On va sur les migrages.
Ça, bon. Première. Si je ne m'habille pas comme tout le monde, bon, ça, c'est pas pour tout. Bon. Si je ne m'habille pas comme tout le monde, je ne trouverai jamais un époux.
Faux.
Réponse. En vous habillant, mademoiselle, de façon provocante et immodeste, vous trouverez sans doute quelqu'un. Un amant, mais jamais un époux catholique. Un époux catholique. Bon. Il ajoute, l'amour purement charnel ne dure pas car le corps se flétrit avec l'âge. Bon, tout simplement. Deuxième objection. Mais tout le monde s'habille ainsi aujourd'hui. Pourquoi donc se distinguer? Personne n'aime pas de se singulariser. Au travail, ça va? Non, pas de problème? Réponse? Non. Alors, silence, vous attendez. Réponse. Lutter contre le respect humain. Alors, faire comme les autres. S'ils font du bien, ça va. S'ils font du mal, ça va pas. Ça va pas. Alors, il continue. Si tout le monde se précipite en enfer, vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement. Bien. Troisième, alors, je pense, bon, vous êtes obsédé et voyez le péché partout. Et en plus, vous êtes misogyne. Alors, le péché originel existe toujours, on a vu, même la suite du péché, mais après le baptême. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit les prompt, mais la chair est faible. Est faible. Quatrième objection, si vous voulez bien. Un prêtre ne peut comprendre combien il peut être pénible pour une femme, surtout quand il fait très chaud, de marcher avec une longue robe couverte des pieds à la tête. Bon, moi je répondrai, bon, regardez votre serviteur, vous pouvez prier, vous avez la réponse. On vous comprend très très bien. D'accord.
Même en été, on ne raccourcit pas les pieds.
Ensuite, tout simplement, c'est pas commode. C'est pas commode. C'est pas commode, c'est bien comme ça, quand vous voulez. Je vais citer Pilouze. Sans doute, Dieu ne demande point aux femmes de vivre en dehors de leur temps, on a déjà vu, de rester indifférent aux exigences de la mode au point de se rendre ridicule en s'habillant à l'encontre des goûts et des usages de leurs contemporains. Voilà, avec des chapeaux, je ne sais pas, avec des plumes comme ça. Non. Sans se préoccuper jamais de ce qui leur plaît. Ce que Dieu leur demande, c'est de se souvenir que la mode n'est ni peut, ne, pardon, que la mode n'est ni ne peut être la règle suprême de leur conduite. Qu'au-dessus de la mode et de ses exigences, il y a des lois plus hautes et impérieuses, des principes supérieurs et immuables, qui en aucun cas ne peuvent être sacrifiés au gré du plaisir et du caprice. Ces principes ont été proclamés par Dieu, par l'Église, par les saints et les saintes, par la raison et par la morale chrétienne. Pilouze, pas moi. Alors, la dernière objection, le dernier boulet de canon, si vous voulez bien. Alors, il faudrait donc que je m'habille avec un sac de pommes de terre pour être modeste. C'est ça? Réponse. Soyez féminine, c'est-à-dire jolie et élégante, mais avec modestie. Comme la sainte.